18h ici à Washington DC, 18h en temps universel. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la VOA Afrique dans votre libre antenne. À votre avis, Alexandrine Franlognon à ce micro. Alors que les combats reprennent dans l'est de la RDC entre le M23 et l'armée congolaise, l'ONU s'alarme des viols et exécutions. Le porte-parole du chef des droits de l'homme de l'ONU, Jeremy Lawrence, a déclaré lors d'un point de presse à Genève que son bureau cherchait à vérifier des informations faisant état de ces camps de femmes violées par les troupes congolaises dans le sud Kivu. Selon le gouvernement, 165 femmes ont été violées lors d'une évasion de prison à Goma. Que peut-on faire, même à petite échelle, pour lutter contre ces violences? Et pensez-vous que les cas de viol lors des conflits reçoivent assez d'attention et les victimes mieux accompagnées? On attend vos réactions pour cette libre antenne sur VOA Afrique. Et pour ce débat, nous avons déjà en ligne avec nous Solange Nyamulisa. Pardon. Bonsoir, Madame Nyamulisa.
Bonsoir.
Vous êtes consultante sur les questions du genre en RDC. Avec vous, on va essayer de comprendre pourquoi le viol est utilisé souvent comme une arme de guerre dans les conflits et surtout quels objectifs cherchent à atteindre les auteurs en recourant à ce genre de violence. On va d'abord écouter une première réaction audio, la réaction de Christian Oukaman, il est en RDC.
Bonjour la VOA, bonjour toute l'Afrique. Parce que nous savons qu'en d'une guerre, il y a toujours des violences, il y a toujours des massacres. Et ça, le cas qui vient de se passer récemment ici, dans la prison centrale de Goma et aussi dans le sud de Kiev. Tous les deux parties sont accusées, y compris les rebelles et aussi les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, pour que toutes ces histoires puissent vraiment avoir l'idée ou bien soient stoppées, pour que ces victimes puissent trouver réparation. Premièrement, d'abord, c'est qu'on cherche d'abord l'effort d'abord de mettre toutes les parties sur une même table afin de trouver une solution pour que la paix puisse revenir. Après cela, à ce moment-là, qu'il nous cherchait maintenant un moyen de traduire les auteurs de tous ces crimes en justice et puisse répondre à leurs actes odieux. Ok, moi, c'est M. Christian Oukaman. Je suis de la République démocratique du Congo dans la ville de Bunia. Merci.
Et l'on vous remercie pour votre réaction. Solange, vous avez suivi cette réaction. On aimerait d'abord comprendre pourquoi ça revient aussi souvent que le viol soit utilisé comme une arme de guerre dans les conflits. Est-ce que vous en avez une idée?
Pourquoi on utilise les violences pendant les conflits? Cette question, on a toujours posé et malheureusement, on ne trouve pas de solution parce que il n'y a pas de mesures préventives du moment où les conflits commencent. Ce qu'on remarque, c'est que ce sont souvent les femmes, les filles, même les enfants qui sont victimes de ces violences sexuelles pendant les conflits. Et en fait, c'est comme si ceux qui se battent, que ce soit les rebelles, que ce soit même au niveau de l'armée, ils utilisent ça, je ne sais pas si c'est pour démontrer un rapport de force, si c'est pour diminuer encore, affaiblir, vulnérabiliser la femme pendant ces moments de conflit. En fait, on ne comprend pas pourquoi. Parce que quand ces gens se battent, ce ne sont pas les femmes qui se battent. Ce sont les hommes qui se battent. Oui, certes, dans l'armée, dans la rébellion, il y a des femmes aussi, mais pourquoi la femme doit devenir la victime pendant ces conflits-là, pendant ces guerres? Et ça, on l'a observé depuis, je parle du Congo, c'est depuis 1996, depuis que la guerre a commencé. Et chaque fois quand il y a des conflits, tout le temps, où il y a toujours des chiffres alarmants, même quand vous regardez les récentes violences là, à Goma, il y a eu des cas de violence. Il y a des rapports des Nations Unies qui sont en train de crier là-dessus, de prouver qu'il y a des femmes, des jeunes filles qui ont été victimes. Mais rien ne s'est fait avant pour tout justement éviter qu'il y ait ces cas-là. Le problème aussi, c'est l'impunité au Congo, l'impunité. Parce que même après, quand il y a des dialogues et tout, ces gens qui ont commis ces violences ne sont pas punies. Donc après, quand il va y avoir encore une nouvelle violence, les femmes vont être encore victimes.
Et vous l'avez dit, l'ONU a réagi, l'ONU a, qui cherche à vérifier ces informations faisant état de femmes violées par les troupes congolaises, notamment dans le sud Kivu. Mais est-ce que, selon vous, les cas de viol lors des conflits reçoivent de manière générale assez d'attention et les victimes mieux accompagnées? Parce qu'on a l'impression que les discussions se focalisent sur la résolution du conflit, mais est-ce que ces victimes de violences sexuelles reçoivent assez d'attention?
Le grand problème, c'est que pendant les conflits, elles ne reçoivent pas d'attention. C'est après qu'il y a des organisations qui prennent en charge ces femmes. Il y a des hôpitaux qui prennent en charge pour soigner leurs blessures, soigner leurs traumas. Mais avant, rien n'est fait. C'est ça qu'on déplore. Rien n'est fait pour protéger ces femmes pendant le moment des conflits. Rien n'est fait pour... même exiger, pour demander à tous ces combattants de ne pas toucher à la femme. La femme, tout ce qu'elle cherche, c'est fuir pour trouver un abri où elle va se réfugier avec ses enfants. Mais dès qu'on arrive dans la maison, dès qu'on arrive quelque part, on trouve les femmes, la femme, elle devient la première victime. Donc, tout ce qui est fait, c'est après. C'est des mesures juste pour soigner, mais la blessure, elle reste là.
Solange, merci de nous accompagner dans cette émission. On va vous garder encore pour quelques minutes. Nous avons un auditeur qui vient de nous rejoindre. Jules, bonsoir.
Bonsoir, Madame Alexandrine. Bonsoir à tous les milliers d'auditeurs de VO Afrique. Je profite de l'occasion pour saluer tous les militants du Forum des nationalistes, un mouvement citoyen congolais.
Alors, vous avez suivi la réaction de Solange Niemoulissa tout à l'heure et le premier auditeur qui a réagi sur ce thème assez difficile des violences sexuelles lors des conflits. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce thème?
Merci beaucoup, madame. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord m'incliner avec votre autorisation aux mémoires donc de tous les Congolais victimes, hein, bien entendu, qui sont succombés d'une manière barbare par l'invasion rwandaise sur notre sol, donc l'armée rwandaise. Alors, sur la question des violences sexuelles ou d'autres formes de violences, bien entendu, ce n'est pas seulement les femmes qui ont été violées, mais il faut signaler que ces combats...
Qu'est-ce que vous voulez dire que ce ne sont pas que les femmes qui ont été violées? Je n'ai pas bien compris.
Ce ne sont pas les femmes seulement, parce que les hommes également, il y a trop de victimes. Donc, il y a les femmes, il y a également les hommes qui ont été violés. Et la violence n'est pas seulement sexuelle, madame. Ça, il faut quand même les souligner.
Absolument, il y a des exécutions. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons uniquement sur les violences sexuelles.
Les violences sexuelles, maintenant, c'est à ce niveau que je suis en train de condamner la communauté internationale et toutes les organisations d'ailleurs du monde qui voient avec l'œil impuissant, voulais-je dire, donc toutes les violences qui s'effectuent en République démocratique du Congo. Madame, il faut signaler qu'il y a déjà plus de 3 décennies que les Rwandais sont en train de violer les femmes congolaises.
J'aimerais juste signaler que pour l'instant, les auteurs de ces viols ne sont pas connus. Pour l'instant, on ne désigne aucun groupe comme auteur de ces violences sexuelles.
S'il vous plaît, madame, il faut dire que c'est l'évasion de l'armée rwandaise qui a fait à ce que ces viols puissent être enregistrés. Donc, si l'armée rwandaise et les supplétifs du M23 n'étaient pas là, je pense que ces viols ne pouvons pas avoir lieu. Donc, nous pouvons coller toutes ces violations sur le dos des Rwandais.
Je précise que ce n'est pas la première fois qu'on parle des viols lors des conflits, surtout dans l'est de la RDC.
Bon, madame, vous dites, pardon, vous pouvez reprendre.
Je précisais juste que ce n'est pas la première fois qu'on parle de viol des femmes lors des violences pendant les conflits dans l'est de la RDC.
Bien entendu, je pense que ici, moi je suis acteur de la société civile, tel que je suis en train de vous parler ici. Et il y a les présidents de la société civile, par exemple ici au site Kivu où je me trouve, Jean Sami Takimbula, pour ne pas les nommer, qui a alerté sur les viols qui se font ici en province d'ici de Kivu. Mais personne ne l'a entendu.
Donc si je comprends bien, il y a des organisations sur le plan local qui s'intéressent tout de même, qui portent de l'attention à ces cas de viol.
Moi-même, mon organisation ici que je venais dont je parlais au début, nous faisons toujours des alertes sur cette question, mais personne ne nous écoute, madame. Et c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Moi, je pense que pour finir, en tout cas, toutes ces violations, ces viols qui se font donc dans notre pays, premièrement, il faudrait qu'on trouve en tout cas une solution sur les conflits qui existent entre les Rwandais et la RDC. Parce que quand les Rwandais n'agressent pas la RDC, je pense que toutes ces violations ne se font pas. Madame, vous avez le prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege, qui en a parlé plusieurs fois sur cette question, mais personne ne l'écoute. Donc, c'est cette invasion rwandaise qui occasionne toutes les violations sexuelles qui se font dans notre pays. Et donc, merci. Si la communauté internationale ou les organisations à tous les niveaux veulent mettre fin à cette situation, premièrement, donc toutes ces organisations doivent d'abord chercher donc à faire entendre la RDC et les Rwandais afin que cela ne puisse pas arriver. Les Congolais ont besoin.
Merci beaucoup, Jules. On va permettre à d'autres auditeurs de pouvoir réagir à ce thème dans votre avis sur VOA Afrique. Merci pour votre intervention, Jules. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Avant de revenir à vous, Solange, permettez-moi, on va écouter la réaction audio de Jean-Louis de Kigali.
Bonjour, cher VOA, ainsi que tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Au-delà de toute polémique et récupération, les études forensiques de terrain à Goma prouve à suffisance que l'ancienne MONUC, actuellement MONUSCO, mission des Nations Unies, qui se trouve en RDC depuis le mois de juin 2010, sont complices dans la fuite des prisonniers et même la fourniture des armes. Ce qui est vraiment saugrenu est le siège des droits de l'homme à Genève, qui veut qu'une mission soit constituée pour enquête sur les violences à l'est de la RDC. Des paramilitaires ont été paradés, presque 300, sans que la MONUSCO lève le moindre sourcil. Des milices avec une formation sommaire, avec des armes blanches et des armes de guerre, qui ont fait des violences répétées contre la population. L'Est de la RDC est devenu pour un moment pire que le Far West. Et comme un exercice comptable, personne n'est responsable. Quel culot ! Amitié, Jean-Louis de Kigali.
Merci à vous, Jean-Louis de Kigali. Solange, je reviens à vous. Est-ce qu'on peut s'intéresser aux besoins prioritaires de ces victimes de viol quand ces événements arrivent? Quels sont les besoins prioritaires de ces personnes qui ont été touchées?
Et la première des choses, c'est d'abord soigner la victime. Soigner la victime pour s'il y a moyen, par exemple, si elle peut arriver à trouver un centre de santé avant 72 heures.
Au prime abord, est-ce que les femmes, les victimes, osent, au prime abord, est-ce qu'elles osent souvent aller dénoncer ou bien aller se faire enregistrer après avoir été victime de viol lors de ces événements?
Comme vous le savez, dans notre culture, ces femmes, elles ont honte de dénoncer, même de dire, d'avouer qu'elles ont été violées. Parce qu'elles ont peur d'être discriminées après. Alors, il y a certaines qui se retrouvent après malades, mais elles pouvaient bien peut-être éviter cette maladie-là. Je parle surtout des maladies sexuellement transmissibles. Elles pouvaient bien se retrouver sans cette maladie si elle a pu aller vite à l'hôpital pour se faire soigner. Mais elles ont peur. Elles ne sont pas prises en charge. Mais avec les organisations, ce qui se passe, c'est quoi? Une fois maintenant, elles acceptent, elles dénoncent, elles sont prises en charge, elles reçoivent beaucoup de formations pour leur permettre de regagner un peu de confiance en elles.
Mais pour cela, il faut d'abord avoir l'information que de telles organisations existent et qu'elles peuvent se tourner vers ces organisations pour avoir de l'aide.
Oui, comme vous le savez, depuis 1996, après, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent tout justement dans ces sens-là pour aider les survivantes. On ne parle même pas des victimes, on parle des survivantes des violences faites aux femmes, des violences sexuelles. Mmh. Et bon, c'est vrai, il faut que ces organisations soient peut-être à côté, là où elles sont. Il faut que ces organisations puissent être à leur portée. Des fois, ce sont des organisations aussi qui ont leur siège dans des grandes villes. Et la femme au village, peut-être qu'elle n'arrive pas à trouver. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, comme vous le savez.
Et pour cette émission, j'ai tenté de contacter énormément d'activistes et de personnes qui luttent contre les violences basées sur le genre. Mais malheureusement, de nombreuses d'entre elles n'ont pas souhaité réagir par peur pour leur propre sécurité. Donc ça veut dire qu'actuellement, les activités sont au ralenti pour beaucoup de ces organisations, notamment dans l'est de la RDC.
Effectivement, quand il y a un conflit, oui, les gens qui travaillent dans ces organisations, elles sont aussi cibles. Donc, les personnes qui travaillent dedans, elles essaient de se protéger. Mmh. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, Goma est contrôlée par un groupe rebelle. Donc, du coup, peut-être que ces organisations n'auront pas la même force, le même courage pour pouvoir travailler comme elles le faisaient avant. Et peut-être atteindre aussi, toucher le maximum des femmes qui ont été violées.
Mmh. On va écouter une autre réaction, celle de Zongrana Lassan. Il est au Nigeria.
Oui, VOA Africa, mes respects à vous, mes respects à tous les auditeurs de VOA Africa. Quant à la violence faite aux femmes, les viols plutôt faits aux femmes, et on a trouvé ça dans toutes les guerre en Afrique, que ce soit au Nigeria pendant la guerre du Biafra, que ce soit au Libéria, que ce soit en Côte d'Ivoire, et même dans le terrorisme, on voit des viols des femmes. Et ce phénomène doit être inscrit par l'ONU comme un crime contre l'humanité. Et ça ne doit pas se limiter à un petit viol. Mais il y a aussi une question de précaution à prendre, que les femmes aussi souvent doivent prendre pour éviter aussi certaines choses. Quand vous voyez des zones là où il y a plus de risques, ils doivent déguerpir. Les premières victimes, c'est les femmes et les enfants. Hein. Les premières victimes de toutes les guerres, c'est les enfants et les femmes. Parce que ils ne savent pas courir et la femme ne va jamais courir ou fuir laisser son enfant en temps de guerre. Donc, ils prennent toujours les pots cassés. Et j'aurais aimé que l'ONU se penche sur ce côté pour vraiment trouver des sanctions fortes à l'égard de ces femmes. Merci et bonne soirée.
Merci à vous également pour votre réaction. On va marquer une courte pause et on revient pour la suite de ce débat.
À votre avis sur VOA Afrique. Afrique.
À votre avis sur VOA Afrique, alors que les combats reprennent dans l'est de la RDC entre le M23 et l'armée, l'ONU s'alarme des viols et exécutions. Le porte-parole du chef des droits de l'homme de l'ONU a déclaré lors d'un point de presse à Genève récemment que son bureau cherchait à vérifier des informations faisant état de 52 femmes violées dans le sud Kivu et selon le gouvernement, 165 femmes ont été violées lors d'une évasion de prison à Goma. Selon vous, que peut-on faire, même à petite échelle, pour lutter contre ces violences et pensez-vous que les cas de viol lors des conflits reçoivent assez d'attention et les victimes mieux accompagnées? Pour cette discussion, nous sommes avec Solange Niemoulissa et les consultantes sur les questions du genre en RDC. Solange, on a suivi la réaction de cet auditeur juste avant la pause qui pense que les femmes aussi devraient prendre des précautions pour lutter contre ces violences sexuelles. Un commentaire?
En fait, je suis choquée par ce que cet auditeur a dit parce que je ne sais pas s'il s'est déjà retrouvé dans une situation de guerre et savoir comment ça se passe. Quand il dit que oui, les femmes doivent prendre des précautions, quelles précautions tu vas prendre quand tu as des hommes armés qui débarquent chez toi? Moi qui vous parle, on a connu ces cas chez nous en 98. On était à la maison, des hommes armés sont venus. Qu'est-ce que tu vas faire? quand ils viennent comme ça, quelles précautions tu vas faire? C'est peut-être juste prier pour que tu ne sois pas violé. Donc, je ne suis pas d'accord. Quand la femme est en train de fuir avec ses enfants et qu'on l'arrête sur la route pour la violer devant ses enfants, devant son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que cet auditeur vient de dire parce qu'il ne comprend pas un peu l'ampleur. Quand on parle des violences pendant les conflits. On parle des violences pendant les conflits. La femme, elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Elle est sans force. Même son mari ne peut même pas la protéger. Vous vous rendez compte? Des fois, le pauvre mari est là. On est en train de violer sa femme devant lui. Il ne peut rien dire. C'est compliqué. C'est vraiment complexe. Je suis désolée. Je suis très choquée par ce que cet auditeur vient de dire tout à l'heure, là. Mais il faut qu'ils comprennent que dans un contexte de guerre, dans un contexte où il y a la violence, où il y a les conflits, la femme, elle devient encore plus vulnérable. Et c'est comme ça qu'elle est utilisée.
J'aimerais également qu'on évoque. J'aimerais bien qu'on évoque les mécanismes de justice nationale, surtout en RDC, s'ils existent. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute la réaction de Chantal Yeloum-Moulop.
Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, mon pays, traverse une crise humanitaire et sécuritaire d'une gravité sans précédent. Les combattants qui ravagent l'est du pays, alimentés par le groupe M23, soutenu par le Rwanda, ont plongé des milliers de civils dans une terreur indescriptible. Les viols, les exécutions sommaires et les déplacements forcés sont devenus le quotidien d'une population abandonnée à son sort. L'ONU a récemment tiré la sonnette d'alarme. Centaines de femmes ont été violées. Ces actes barbares ne sont pas seulement des crimes de guerre, ce sont des atteintes à l'humanité tout entière. Le Rwanda, par son soutien au M23, porte une responsabilité directe dans cette tragédie. Il est temps que la communauté internationale cesse de fermer des yeux sur cette ingérence déstabilisatrice. Le Rwanda doit être tenu pour responsable de ses actions et des souffrances qu'il inflige au peuple congolais. Nous devons agir et agir maintenant. À petite échelle, chacun peut contribuer en sensibilisant l'opinion publique, en soutenant les organisations humanitaires sur le terrain et en exerçant une pression constante sur le gouvernement, sur les gouvernements, je dis bien, et les institutions internationales pour qu'ils prennent des mesures concrètes. Les victimes des violences sexuelles doivent recevoir une attention prioritaire, un accompagnement psychologique et médical, ainsi qu'un accès à la justice. La RDC mérite la paix, la stabilité et le respect de sa souveraineté.
Chantal Yeloum-Moulop qui a insisté sur la question de justice. Solange, le viol comme crime de guerre est reconnu par le droit international et énormément d'auditeurs ont interpellé dans leur réaction la communauté internationale. Pourquoi est-il aujourd'hui si difficile de poursuivre les coupables? Et parlant des mécanismes de justice nationale, qu'est-ce qui existe? Que dit la loi?
Oui, on le sait très bien. On sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui ont tout simplement militer pour que les viols, les violences faites à la femme soient reconnues comme un crime contre l'humanité et tout. Mais ça reste sur le papier, ça reste sur le papier, comme vous le savez, parce que quand on parle de la RDC, on voit déjà que la justice telle qu'elle fonctionne en RDC, elle est faible avec tout ce qui se passe au pays. Donc, du coup, il faut que l'État puisse coopérer pour tout justement poursuivre ces gens qui commettent ces viols. Mais quand on regarde dans le contexte de la RDC, des fois c'est commis par les groupes rebelles, les groupes rebelles qui sont dans la brousse. Donc, c'est difficile même pour l'État de pouvoir accéder à ces zones-là. Donc, du coup, tout ce qui peut être fait, fait comme poursuite judiciaire, ça devient compliqué.
Et aussi, en l'absence de dénonciation, il n'y a pas de coupable.
Les coupables, ils sont là. Ils sont là, mais le problème, c'est comment arriver à mettre la main sur ces coupables, surtout quand il s'agit je parle du côté, par exemple, de groupes rebelles. Mais si c'est du côté, par exemple, de l'armée, oui, l'État doit faire quelque chose. L'État doit punir les militaires ou les gens qui les font, qui sont pas dans des zones de conflit.
On va aller au Togo.
Mais en fait, c'est là même la grande question. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça se répète, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de... Il y a l'impunité. Quand il s'agit de violences sexuelles, il y a l'impunité. Normalement, on devrait appliquer la tolérance zéro.
On va écouter la réaction de Fernandez Toyo. Il est au Togo et on revient à vous, Solange.
Oui, bonjour la VOA. Je crois que ce sont des situations très préoccupantes. Parce que en temps de guerre, les gouvernements et leurs ennemis d'en face n'accordent pas beaucoup d'attention à ces questions de personnes qui subissent des exactions de toutes sortes. Voilà, pour ceux-là qui sont victimes de viols et autres. Le gouvernement peut apprendre des choses comme ça, mais l'attention est surtout tournée vers l'adversaire qui veut le défaire. Voilà. Donc, ce qui fait que ces personnes-là se retrouvent dans des situations très difficiles. Ce qu'il faudra faire, c'est de donner plus de moyens et de garantir des mesures de sécurité à ces organisations humanitaires-là qui militent sur le terrain pour que ces personnes-là puissent trouver une solution durable, pour que ces personnes-là puissent avoir ce qu'il faut, de travailler dans la sérénité.
Alphonse Mouaki, dans à votre avis, moi je pense qu'il faut dans beaucoup d'États qu'on puisse organiser une formation féminine des femmes, des filles après le secondaire, qu'on donne à toutes les filles, qu'on apprenne à toutes les filles les arts martiaux pour les self-défense, pour un système de self-défense. On l'a fait pareil en Inde, il y avait trop de viols. Il y a des armes martiaux qui ont été appris à des filles. Ensuite, il faut des lois fortes pour sanctionner les auteurs des viols. Éduquer les militaires dans les armées, dans les rangs, il faut les éduquer. Il faut les éduquer.
Voilà, c'était la réaction de Alphonse Mouaki de la RDC avant lui. On l'a écouté, Fernandez Toyo du Togo. Solange, Alphonse qui propose une formation féminine pour les femmes et les filles, en art martial notamment, pour pouvoir se défendre. Et il a aussi suggéré la formation des mineurs sur ces questions de viol.
Oui, je suis d'accord pour la formation des militaires et qui donne ces formations-là. Il y a les Nations Unies aussi qui forment tout justement l'armée par rapport aux questions de genre, questions de violence faites aux femmes. Mais après, la pratique sur terrain, c'est toute une autre réalité. Par rapport à la formation sur les arts martiaux, pourquoi pas, il faut pas... Celles qui veulent, elles peuvent se former, c'est bien, mais après, face à quelqu'un qui a une arme, même si tu t'es formé en arme martiale, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, parce que toi, tu n'es pas armé. La personne qui vient te violer, la personne a une arme devant toi, donc du coup, je sais pas ce que ça peut...
Merci Solange Nyamulisa, merci de nous avoir accompagnés pour ce partage à votre avis sur VOA Afrique. Vous êtes consultante sur les questions du genre en RDC. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris la peine d'envoyer des commentaires audio pour ce débat. À votre avis, je vous laisse avec Jean-Roger Billon pour un nouveau point de l'actualité sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro.